J'entame donc aujourd'hui ma troisième et dernière année sur l'histoire de ce que nous appelons dans notre jargon la transition Ming-Qing. Autrement dit, sur les événements qui ont conduit à la chute de la dynastie des Ming et sur les circonstances dans lesquelles la dynastie des Qing ou dynastie Manchu a établi sa domination sur l'Empire. La date donnée dans les livres d'histoire pour le changement de dynastie est 1644, mais comme nous le verrons d'abondance sur le terrain, c'est un peu plus compliqué que cela. Et cette transition dynastique, dont on peut dire sans exagération qu'elle a été un événement cataclysmique dans l'histoire de la Chine, je l'examine donc à travers un type très particulier de source, à travers ce que j'ai appelé les documents à la première personne, sur lesquels je vais redire un mot à la fin, d'où bien sûr le titre que j'ai donné à cette série, Autobiographie et Histoire. Mis à part quelques éléments d'introduction que je vais donner aujourd'hui, j'enchaîne directement avec le cours de l'année dernière. Je veux dire que je reprends exactement là où je m'étais arrêté. En fait, je vais traiter un aspect du sujet que j'avais prévu de, discuter dès l'année dernière, mais comme d'habitude, j'ai pris du retard. De nouvelles questions se sont posées au fur et à mesure que j'avançais. Je suis tombé sur de nouvelles sources, les détails intéressants s'accumulaient. Un point que j'avais prévu de traiter en 20 minutes prenait une ou deux heures. Etc., etc. Par exemple, avant d'aborder les événements de la transition dynastique au sens étroit, disons ceux des années 1640, j'avais prévu de consacrer une courte digression à une autobiographie dont je tenais à dire un mot car elle me semblait intéressante et originale. Et en effet, ce texte s'est avéré si riche, outre le fait qu'il est plutôt long, que j'en ai parlé 4 heures durant. Il s'agit, je le rappelle, de l'autobiographie chronologique d'un certain Xu Zhetuo, né en 1574 et mort en 1631. Xu Zhetuo, dont vous avez le nom, alors comme c'est trop compliqué de manipuler à la fois le tableau noir et le PowerPoint, j'ai mis tous les caractères chinois sur cette fiche. Donc Xu Zhetuo, un texte qui est pratiquement inconnu et qui combine une foule d'informations historiques passionnantes avec l'histoire d'un parcours personnel. On pourrait presque dire un parcours spirituel, rapporté avec une sincérité, un penchant pour l'introspection et une absence d'inhibition, tout à fait extraordinaire. Bref, voici où nous en sommes. J'avais prévu de parler l'année dernière de deux aspects de la transition Ming-Qing, de deux séries d'événements qui se situent de part et d'autre de l'année fatale 1644, ou plutôt des années fatales 1644 et 1645. Je vais tout de suite rappeler pourquoi. D'une part, la crise de l'extrême fin des Ming au Jiangnan, et d'autre part, les réactions populaires à la conquête et à l'occupation mandchoue. Concernant le premier point, pour le rappeler en quelques mots, mon exposé a principalement tourné autour des catastrophes naturelles qui s'accumulent au début des années 1640 et dont la gravité et les conséquences semblent aux yeux des contemporains ne pas avoir de précédent dans l'histoire. En tout cas, pas dans les régions ultra-prospères du Jiangnan, du Baiyangtze, autour de Suzhou, Shanghai et Nankin. Et pour mémoire, je vous projette la carte du Jiangnan que j'avais déjà distribuée l'année dernière. Cette région donc, ces préfectures auxquelles je me suis intéressé. J'avais choisi de m'intéresser à cela d'abord parce que c'est effectivement important, parce que ces épisodes de sécheresse et d'épidémie qui d'ailleurs n'ont pas seulement dévasté le Jiangnan, mais ont également touché et ravagé la plus grande partie de la Chine du Nord et de la Chine centrale, ainsi que les terribles famines qui en ont été la conséquence, ont littéralement mis à genoux ces régions du Baiyangtze, qui étaient un peu le moteur économique de l'Empire. Comme nous l'avions vu, le fond a été atteint en 1641, mais 1641 n'était que l'année la plus catastrophique dans une longue série, et ce qui compte dans ce genre d'affaires, c'est l'effet cumulatif. Et ensuite, j'avais choisi de parler de tout cela, et c'est finalement ce qui justifie à mes yeux l'ensemble de ces exposés, j'avais choisi de parler de tout cela à cause des descriptions extrêmement présentes, immédiates, que nous en trouvons dans un certain nombre de témoignages personnels, qu'il s'agisse des crises à proprement parler autobiographiques, ou de chroniques rédigées par des témoins et par des témoins qui restent très présents dans le récit. Ce qui fait le prix de tels textes, c'est que c'est seulement à travers eux que nous pouvons espérer retrouver quelque chose de la façon dont tous ces événements ont été vécus et perçus par les personnes qui les ont subis. Je veux dire en temps réel et par-delà les formules toutes faites de l'historiographie officielle. Voilà donc le premier point, cette espèce de spirale descendante dans laquelle les habitants du Jiangnan, puisque c'était de là que venaient tous les témoignages que j'ai cités, dans laquelle les habitants du Jiangnan avaient l'impression d'être aspirés, sans savoir où tout cela allait se terminer, et c'est bien dans ces termes qu'ils le disent, mais en ayant nettement le sentiment, et cela aussi ils le disent, que ça ne peut se terminer que par une catastrophe majeure. Autrement dit, mais là c'est quelque chose qu'on n'ose pas exprimer littéralement, autrement dit par l'effondrement du système dans lequel on vit, par la chute de la dynastie régnante. Car, et cela je l'avais aussi illustré, car cette ambiance de fin du monde annoncée qu'exprime la plupart des auteurs originaires du Jiangnan que j'ai cités ne vient pas seulement de ce détraquement incompréhensible du climat, de ces mortalités épouvantables dont ils sont les témoins, de ces phénomènes étranges comme les invasions répétées de sauterelles dans une région où on ne se souvient pas d'en avoir jamais vu, sans parler du détraquement des relations sociales que tout cela provoque, du banditisme, des révoltes des petites gens, etc. Ils viennent aussi, ces sombres pressentiments, de l'avance inexorable de deux périls mortels qui menacent la dynastie des Ming et qui vont en effet la faire tomber très vite dans les premiers mois de l'année 1644. D'une part, les rébellions qui ont éclaté dans le nord-ouest à partir de 1628, mobilisant des paysans misérables, des soldats démobilisés et divers autres déclassés, mais qui ont fini par se regrouper en armées très organisées et extrêmement mobiles, sous le commandement de chefs d'une efficacité redoutable et qui, à terme, vont mettre à feu et à sang une bonne partie de l'Empire. Et d'autre part, bien sûr, l'ennemi extérieur, les Mandchous, qui ont commencé de grignoter les positions des Ming dans le nord-est dès le début du XVIIe siècle. Encore une fois, mon point d'observation dans tout ce que j'avais exposé l'année dernière, c'était la région du Jiangnan, et a priori le Jiangnan semblait hors de portée de tels dangers, de même qu'il semblait hors de portée des mortalités massives et des souffrances inhumaines causées par la famine. Tout cela, ça se passait loin au nord. Or, à Suzhou ou à Nankin, dans les dernières années des Ming, on a tout d'un coup l'impression que c'est de plus en plus proche. Non seulement la famine et la sécheresse, dans leurs formes les plus extrêmes, dont j'ai longuement parlé il y a un an, mais aussi le fait que, depuis 1630 approximativement, les Mandchous ont pris le contrôle de la plus grande partie des territoires du nord-est, ce qu'on appelait alors le Liaodong, et qui s'est appelé plus tard la Mandchourie. Donc cette partie que vous voyez là, le Liaodong, c'est exactement cette région. Cette carte que j'ai pêchée sur Internet, bien sûr, en fait, est une carte de la dynastie mongole, mais et avec des transcriptions vieillottes. Mais les limites provinciales sont exactement les mêmes que sous les Ming, la seule différence étant que Tingxi, la capitale, sous les Mongols, s'étendait loin au-delà de la Grande Muraille, ce qui n'est pas le cas sous les Ming. Donc, le Liaodong est bien plus inquiétant encore, le fait que les Mandchous ont réussi plusieurs raids audacieux à l'intérieur même de l'Empire. À l'extrême fin de 1929, par exemple, ils arrivent quasiment sous les murs de la capitale, créant, comme on s'en doute, une belle panique dans tout l'Empire. En 1635, encore, ils s'attaquent aux fameux tombeaux des Ming, qui sont, comme vous savez, juste au nord de Pékin, et il n'est pas besoin d'insister sur l'efficacité ou sur l'impact symbolique d'une pareille opération. Plus grave encore, à la fin de 1638, les Mandchous contournent la capitale, descendent vers le sud et réussissent à pénétrer aussi loin que Linqing sur le Grand Canal. Donc Linqing se situe, n'est pas sur cette carte, mais se situe à peu près ici. Et le caractère, vous le trouvez là, sur Linqing, sur le Grand Canal, donc à portée directe du Bai Yangtze, et ils y restent plusieurs mois. Quant aux bandits maraudeurs, c'est une traduction comme une autre, pour le mot Liuko, les bandits errants, si vous voulez, comme on les désignait, comme on a désigné ces gens que, beaucoup plus tard, les historiens communistes ont qualifiés d'armées paysannes, ces bandits maraudeurs, donc, eux aussi, se rapprochent dangereusement des riches régions du Bayangtze, dès le début de la décennie 1630, en fait. Et les auteurs que j'ai cités l'année dernière signalent plusieurs alertes à l'occasion desquelles les forces militaires de Nankin ou de Suzhou ont dû être envoyées à la rescousse. Cela étant, si ces armées d'insurgés misérables, mais au moins chinois, ont causé d'énormes dégâts dans les provinces centrales de la Chine pendant les 10 dernières années des Ming, elles ne sont jamais parvenues jusqu'au Tiangnan, où pourtant leur seule évocation semble avoir considérablement effrayé tous ceux qui suivaient un tant soit peu l'actualité dans l'Empire. Et à Suzhou, la ville sur laquelle j'ai surtout parlé l'année dernière, même les gens les plus ordinaires étaient très au courant de l'actualité. En revanche, ce sont elles, ces armées paysannes ou de bandits, qui ont fait tomber les Ming. Plus précisément, c'est un de leurs chefs, le fameux Li Zicheng. Et là, il faut quand même que je consacre quelque temps à la chronologie de tous ces événements, car c'est important pour tout ce dont j'aurai à discuter par la suite. Li Zicheng était donc un de ces chefs rebelles qui ont été actifs pendant toute la durée du règne de l'empereur Chongzhen, c'est-à-dire le dernier empereur des Ming, donc entre 1628 et 1644, et qui ont connu tour à tour les victoires les plus éclatantes et les défaites les plus cuisantes face aux armées impériales lancées à leur poursuite, quand ils n'essayaient pas de s'en tirer en prétendant se soumettre au gouvernement une fois que la situation devenait par trop difficile. Et le gouvernement était toujours prêt à offrir amnisties et honneurs aux rebelles pour les neutraliser ou même pour les prendre à son service. Quitte, bien sûr, à reprendre les armes aussitôt qu'ils avaient eu le temps de se refaire. L'histoire des rébellions de la fin des Ming est passablement compliquée et il y a eu d'innombrables protagonistes. La plupart des chefs étaient originaires de la même région, c'est-à-dire du nord du Shaanxi, dans cette région qui se situe juste au sud de la Grande Muraille, qui est extrêmement aride et montagneuse et pauvre, du nord du Shaanxi, donc, et aussi bien eux-mêmes que leurs recrues avaient basculé dans le banditisme pour diverses raisons. Il y avait des victimes de la famine, en 1628 en particulier, il y a une très grave famine dans cette région. Il y avait des soldats qui avaient abandonné leurs unités parce qu'on ne les payait plus depuis longtemps. Et il y avait même des chômeurs, car une partie du personnel du système postal avait été congédiée en 1629 pour faire des économies, et plusieurs chefs de rébellion, dont Li Zicheng lui-même, venaient de là, comme quoi il faut y réfléchir à deux fois avant de réduire le service public. Mais au fil des années, deux grands leaders se sont dégagés. L'un, c'était Zhang Xianzhong, qui a laissé une réputation particulièrement sulfureuse de brutalité sadique, si vous voulez, et qui a surtout sévi en Chine centrale. C'est lui qui suscite beaucoup de nervosité parmi les habitants de Suzhou, j'y ai fait allusion à l'instant, en allant saccager les tombes des ancêtres impériaux à Fengyang, pas très loin de là. Fengyang donc se trouve là, au Anhui, donc sur l'autre rive du Yangtze, en allant donc ravager les tombes des ancêtres du fondateur des Ming, qui se trouvait à Fengyang, dès 1633. Au moment de la chute des Ming, en 1644, Zhang Xianzhong s'était replié au Sichuan, donc dans la grande province de l'Ouest, sur le cours supérieur du Yangtze. Au Sichuan, où il avait créé son propre régime et où il faisait régner la terreur. On affirme que ses forces auraient massacré la plus grande partie de la population du Sichuan, qui est une immense province, ce qui me paraît quand même un peu difficile à croire. Dans tous les cas, Zhang Xianzhong, sur qui nous avons la chance de posséder le témoignage tout à fait étonnant de deux missionnaires qu'il avait capturés au Sichuan et qu'il gardait comme conseillers, et qui ont bien sûr essayé de le convertir, Zhang Xianzhong est défait et exécuté par une expédition mandchoue au début de 1647. Et l'autre grand leader, donc, c'est Li Zicheng. Comme Zhang Xianzhong, Li Zicheng a commencé à se sentir des ambitions impériales au début des années 1640, à un moment où les Ming ne pouvaient plus envoyer contre les armées rebelles de généraux capables de les menacer sérieusement, puisqu'ils étaient obligés, plus que jamais, de concentrer leurs meilleures forces sur la frontière nord-est. Li Zicheng réussit en 1642 à s'emparer de la capitale du Henan, la grande ville de Kaifeng. Est-ce que Kaifeng est là? Non, mais donc juste au sud du fleuve bleu, à peu près là, la grande ville de Kaifeng, qui était l'ancienne capitale impériale des Song du Nord, il s'en empare après un long siège qu'il n'a réussi à conclure qu'en faisant détruire les digues du fleuve jaune, qui est tout proche, afin de noyer la ville. C'est la plus épouvantable catastrophe qu'ait connue Kaifeng dans une histoire qu'on en a connue pas mal. Et pendant les mois suivants, il va prendre un certain nombre d'initiatives visant à lui donner, ou à se donner, une stature de prétendant au trône, alors que jusque-là, il n'était qu'un chef de bandits s'attaquant à l'ordre établi et rançonnant les populations. Il renforce considérablement son équipe de conseillers lettrés. Il crée un embryon d'administration centrale avec les 6 ministères de rigueur. Et il cherche aussi à soigner son image de protecteur du peuple et d'homme d'ordre. Il s'agit désormais, en effet, de disputer la légitimité dynastique aux Ming. Et c'est en bonne partie, bien sûr, une affaire de propagande. À la fin de 1643, Li Zicheng réussit à reprendre pied dans sa province natale du Shaanxi et à s'installer à Xi'an, la capitale de la province, autre ancienne capitale impériale, bien sûr, et avec un pedigree encore bien plus prestigieux que Kaifeng. D'ailleurs, Li Zicheng rebaptise la ville Chang'an, comme la capitale des Han et des Tang, et au nouvel an lunaire de la 17e et dernière année du règne de Chongzhen, correspondant donc au 8 février 1644, Li Zicheng saute le pas, en quelque sorte, en adoptant un nom dynastique. Ce sera la dynastie des Shun, voilà, la dynastie des Shun, et un nom d'ère ou un nom de règne qui est donc Yongchang. Et c'est de là que Li Zicheng va lancer son assaut sur Pékin, et c'est à partir de là qu'à Pékin, on comprend qu'à présent, tout est plus ou moins perdu. Et en effet, la progression des armées de Li Zicheng vers la capitale des Ming pendant les semaines qui suivent, il franchit le fleuve jaune, donc Xi'an est situé ici, il franchit le fleuve jaune et remonte à travers la vallée de la Fen vers le nord, dans la province du Shaanxi, en direction de Pékin. Donc cette progression vers le nord est irrésistible, les quelques forces supposées le contenir se débandent et les préfectures du Shaanxi tombent l'une après l'autre, à moins qu'elles ne lui ouvrent leurs portes sans combattre. Pékin tombe aux mains de Li Zicheng le 25 avril 1644, et ceci, c'est de la grande histoire hyper connue, et alors même que ses troupes entrent dans la ville, dont les portes leur ont été ouvertes par les défenseurs, l'empereur Chongzhen, abandonné de tous, va sur la colline du Charbon, juste derrière la cité interdite, en compagnie de l'impératrice et de son plus fidèle eunuque, et il se donne la mort en se pendant à un arbre. Mais Li Zicheng ne va pas rester longtemps à Pékin. Il a bien essayé de se donner une stature de fondateur de dynastie en obligeant ses troupes à se comporter de manière irréprochable, et les habitants de la capitale semblent en effet l'avoir accueilli à bras ouverts. Mais cette belle discipline n'a pas duré longtemps, et de toute façon, Li Zicheng était soumis à une pression terrible, pour la bonne raison qu'en s'installant dans la cité interdite, il avait hérité du principal problème des Ming, et je veux parler bien sûr des Mandchous. Or, pendant ce fatal mois de mai 1644, il y a un troisième homme entre Li Zicheng à Pékin et les forces mandchoues qui sont stationnées juste au-delà de la passe Shanhaiguan, c'est-à-dire la passe qui, à l'endroit où la Grande Muraille rejoint la mer, qui marque la limite entre le nord-est et puis la province métropolitaine. C'est le général, ce troisième personnage, c'est le général Wusangui, que les Ming avaient placé à la tête de leurs forces sur le front du nord-est et qui est donc là à attendre de voir comment les choses vont tourner. Il refuse en tout cas de répondre aux sollicitations et aux pressions de Li Zicheng et de se soumettre à la nouvelle dynastie Shun. Et pourtant, ces pressions étaient aussi vives qu'insistantes car Li Zicheng détenait en otage à Pékin aussi bien le père que la petite amie de Wusangui. Li Zicheng quitte donc Pékin après avoir organisé à la hâte la cérémonie d'investissement indispensable pour le faire accéder formellement à la dignité de fils du ciel, et il se dirige vers l'est à la tête de l'essentiel de ses forces avec l'intention d'écraser Wusangui et son armée qui sont en principe encore loyaux aux Ming. Or, à ce moment, Wu Sangui a décidé de jouer la carte des Mandchous. Car, d'une part, il est hors de question pour lui de s'allier à un bandit comme Li Zicheng. D'autre part, il sait que c'en est fini des Ming. Et enfin, il sait que Li Zicheng a exécuté son père et a récupéré sa petite amie. Comme l'avait fait avant lui plus d'un général et plus d'un fonctionnaire Ming originaire comme lui, comme Wu Sangui, de ces mêmes régions du Liaodong, dès lors qu'ils n'avaient plus vraiment le choix parce qu'ils venaient de perdre une bataille ou qu'ils avaient été faits prisonniers, Wu Sangui se met donc au service de la dynastie fondée par Nuraxi en 1616 et qui s'appelle dynastie des Qing depuis 1636. Ces ralliements étaient facilités par le fait, d'une manière générale, étaient facilités par le fait qu'il y avait une certaine familiarité culturelle entre les Mandchous et ces Chinois du Nord-Est qui appartenaient à ce que certains auteurs ont parfois appelé une sorte de société frontalière, une sorte de, non pas de Far West, mais de Far East plutôt. Et ils étaient également facilités par le fait que les Mandchous savaient se montrer généreux envers ces Chinois qui acceptaient de les rejoindre, de travailler pour eux et de collaborer à l'édification d'un véritable État dynastique dont les institutions étaient largement calquées sur celles des Ming et qu'il leur assurait donc à ses nouveaux collaborateurs de belles carrières. En tout cas, lorsque Li Zicheng arrive en vue de la passe de Shanraguan, il trouve en face de lui non pas seulement une armée chinoise, comme toutes celles contre lesquelles il a combattu depuis 15 ans et plus, mais également une cavalerie dont l'accoutrement lui est totalement inconnu, dont l'efficacité est apparemment des plus redoutables et qui va mettre ses propres forces en déroute, ceci se passant le 27 mai 1644, après 2 jours de bataille. Et cette cavalerie, ce sont bien sûr les hommes des bannières mandchoues, qui comportaient aussi des contingents chinois et mongols d'ailleurs, qui à cette occasion font en quelque sorte leur entrée officielle en Chine. Je veux dire, par opposition aux incursions à l'intérieur de la Grande Muraille, auxquelles elle s'était livrée par le passé à plusieurs reprises, auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure, mais qui n'avaient pas eu de suite. Les Mandchous n'étaient pas encore prêts à envahir la Chine et à s'y installer. Or, à présent, c'est différent. Lorsque Li Zicheng se replie sur Pékin dans le désordre, c'est avec les forces combinées de Wu Sangui et des Mandchous à ses trousses. De retour dans la capitale des Ming, qui aura donc été pendant une brève période sa capitale, il ne prend que le temps de charger dans ses fourgons tout ce qu'il peut récupérer en matière d'argent, d'objets précieux, etc. Et il repart vers l'ouest à la tête de toutes ses forces. Les Mandchous entrent dans Pékin sur ses talons et cette fois-ci, bien sûr, ils y restent. L'homme fort du moment, dont le nom était Dorgon, qui était régent, Dorgon était l'un des plus jeunes fils du fondateur de la lignée des Qing, de Nuraxi, et à ce moment-là, il était régent et il proclame l'installation de la dynastie des Qing en Chine en installant sur le trône le troisième empereur de cette lignée qui n'est encore qu'un enfant et dont le nom de règne qui commence à ce moment-là, en 1644, est Shunzhi. Et l'argument utilisé par les Mandchous pour justifier leur installation à Pékin, c'est qu'ils sont venus venger le dernier empereur Ming qui avait été contraint donc de se suicider par des bandits. Je me suis un peu attardé sur tout cela parce que ce qu'on appelle parfois l'interrègne Shun, du nom donc de cette dynastie éphémère créée par Li Zicheng, c'est-à-dire ces quelques semaines en avril et mai 1644, entre le suicide du dernier empereur Ming et l'entrônement du jeune empereur Shunzhi, donc le premier empereur Qing ayant régné depuis Pékin, ces quelques semaines pendant lesquelles la capitale de l'Empire a été aux mains d'un régime issu de façon somme toute très classique, dans le modèle chinois d'une rébellion qui semblait avoir toutes les qualifications pour recueillir le mandat céleste. Cet interrègne Shun, donc, est un épisode peu connu, même des spécialistes, et pourtant, il présente un très grand intérêt du point de vue de certaines problématiques sur lesquelles je vais revenir très bientôt, comme celle de la résistance et de la collaboration en particulier. Et j'aurai du coup l'occasion d'en reparler de cet intermède Shun, de ce règne de Li Zicheng à Pékin, en fait dès la semaine prochaine. Mais je voudrais d'abord continuer ce bref survol chronologique de la transition Ming-Qing que j'ai entrepris. Une fois définitivement installés dans Pékin, donc, ils restent aux Mandchous à prendre possession de cet empire dont ils se sont symboliquement emparés en reprenant à Li Zicheng le trône des Ming, Autrement dit, il leur faut encore soumettre un territoire immense par rapport auquel Pékin est tout à fait excentré, comme vous savez, un territoire immense dont la population ne doit pas avoir été loin des 150 millions d'habitants à cette époque. Et c'est à partir de là, en fait, que nous allons retrouver la seconde grande question à laquelle je faisais allusion, celle que je n'ai pas pu traiter l'année dernière, donc, et cette seconde question, ce sont, comme je l'ai dit, les réactions populaires à la conquête mandchoue. J'expliquerai tout à l'heure ce que j'entends exactement par réaction populaire, où je commencerai d'expliquer. Le problème dans l'immédiat, c'est de rappeler le déroulement des événements qui n'est pas particulièrement simple. Grosso modo, on peut dire que les Mandchous, dont la force de frappe militaire n'avait pas de rival en Chine, étaient parvenus à imposer leur pouvoir sur la moitié nord de l'Empire dès les premiers mois de 1645, même s'il avait fallu beaucoup de combats pour venir à bout de l'anarchie qui régnait un peu partout, et même s'il y a eu une résurgence sérieuse de la résistance loyaliste, donc pro-Ming, dans plusieurs régions de Chine du Nord, en 1648 et 1649 en particulier. Mais le point important, c'est que les Qing n'ont jamais été confrontés en Chine du Nord à une résistance organisée. En abandonnant Pékin en toute hâte avec ses fourgons chargés de butin, Li Zicheng avait perdu toute crédibilité, aussi bien politique que militaire. Et les territoires du nord et du nord-ouest où il avait commencé, effectivement, de s'implanter administrativement, essentiellement en y nommant d'anciens fonctionnaires Ming qui avaient tourné kazakh, n'ont pas tenu bien longtemps. Li Zicheng est délogé de son fief de Xi'an dès février 1645 par une attaque combinée de trois armées Qing, qui n'a quand même pas été une promenade militaire. Il tente ensuite de se replier sur le moyen Yangtze, comme il l'avait déjà fait, au Roubaix, comme il l'avait déjà fait plus tôt dans sa carrière, mais on perd sa trace dans le courant de l'été 1645, et en fait on ne sait pas trop quand ni comment il est mort, massacré avec son entourage par des milices locales, quelque part dans les montagnes de l'est du Roubaix, d'après une des légendes non vérifiées qui ont circulé par la suite. Donc, exit Li Zicheng. En revanche, la conquête de la moitié sud de la Chine, c'est-à-dire en gros les pays au sud du Yangtze, la vallée du Yangtze et tout ce qui est au sud, a été une affaire beaucoup plus difficile et beaucoup plus longue, et qui n'était pas gagnée d'avance. Les Qing ne se sont pas risqués à franchir le Yangtze avant mai 1645, un an presque exactement après leur entrée à Pékin. Et il n'y a rien de surprenant à cela. Outre qu'il leur fallait d'abord assurer leur emprise sur le nord, partir à la conquête de territoires aussi vastes et aussi peuplés que les provinces du Yangtze et de la côte, aussi bien au sud qu'au sud-est, et de plus de territoires beaucoup plus compartimentés par le relief que la grande plaine du nord, et tout cela avec quelques dizaines de milliers d'hommes, certes extrêmement aguerris et remarquablement efficaces au combat, mais peu familiers de ce genre de terrain, même s'ils étaient constamment grossis par des contingents chinois ralliés, ce n'était pas une entreprise facile. Et elle l'était d'autant moins facile que, contrairement à la situation en Chine du Nord, les Qing savaient qu'au sud du Yangtze, ils risquaient beaucoup, beaucoup plus de rencontrer une résistance pour le coup, une résistance organisée. Cette résistance, c'était d'abord celle des loyalistes Ming, qui avaient eu le loisir de se regrouper au sud après la chute de Pékin en avril 1644 et de se donner une légitimité en mettant sur le trône un prince de la famille impériale des Ming. L'histoire de ces régimes éphémères que depuis le début du XXe siècle on nomme collectivement les Ming du Sud, par analogie avec les Song du Sud, est une histoire passablement compliquée. Car ce qui s'est passé, c'est que plusieurs princes Ming ont cherché l'un après l'autre, et parfois simultanément, à incarner la légitimité de la dynastie déchue. Le dernier d'entre eux, le prince de Gui, a finalement échoué au Yunnan, dans le lointain sud-ouest, où il a tenu quelque temps. Mais l'avance des forces Qing a fini par l'obliger à chercher refuge plus loin encore, en Birmanie. Ceci se passait en 1659, et là, il a été finalement capturé et exécuté par le corps expéditionnaire envoyé à sa poursuite. Ceci se passait en 1662, 18 ans donc après la capture de Pékin, d'abord par Li Zicheng et ensuite par les Mandchous. Le général qui commandait le corps expéditionnaire envoyé contre le prince de Gui n'était autre que Wu Sangui, celui dont nous avons vu à l'instant qu'il avait en quelque sorte invité les Mandchous à pénétrer à l'intérieur de la Grande Muraille. En tout état de cause, au moment de la mort du prince de Gui, les Qing étaient ou paraissaient solidement installés dans l'intérieur de la Chine, en 1662 donc. Et le seul régime loyaliste Ming qui aurait pu sérieusement les menacer avait sombré depuis très longtemps. Ce régime loyaliste Ming avait été installé à Nankin dès le début de juin 1644, très peu de temps après la chute de Pékin et le suicide de l'empereur Chongzhen. Nankin, qui signifie bien sûr la capitale du Sud, donc Nankin, ici. Nankin était un choix naturel puisque c'était la capitale secondaire des Ming et jusqu'en 1420, ça avait même été leur capitale principale, celle qu'avait choisie le fondateur de la dynastie, que non seulement elle possédait de ce fait un haut degré de légitimité, mais qu'on y avait aussi maintenu un gouvernement complet avec ses ministères et ses institutions qui tournaient au ralenti, certes, et qui n'avaient pas de réelle autorité au-delà de ce qu'on appelait la province métropolitaine du Sud, le Nanjili, mais un gouvernement qu'il était malgré tout assez facile de réactiver. De par sa situation au cœur de la vallée du Yangtze, Nankin avait en outre un intérêt stratégique évident dans les circonstances présentes. Et puis, il y avait le puissant précédent des Song du Sud. Comme chacun sait, après la capture en 1127 de Kaifeng, leur capitale, par les forces de la dynastie des Qin, et les Qin étaient un régime d'ethnie Jurchen, et il se trouve que les Mandchous étaient précisément leurs descendants, ethniquement et géographiquement, et donc après la chute de Kaifeng aux mains des Qin, et après une période d'assez grande confusion, les membres de la famille impériale des Song avaient réussi à rétablir un gouvernement dans le sud, à Hangzhou, et à mettre un des leurs sur le trône. Et ce partage entre le nord et le sud de la Chine s'était avéré une solution durable, puisqu'il avait été maintenu pendant près de 150 ans, avant que les Mongols ne réunissent de nouveau la Chine sous leur propre pouvoir. Au début de 1644, alors même que les armées de Li Zicheng poursuivaient leur avance irrésistible sur Pékin, l'exemple des Song du Sud était dans tous les esprits. Et pourtant, en dépit des sollicitations de plusieurs de ses ministres, l'empereur Chongzhen avait refusé de se replier au sud en laissant derrière lui l'héritier présomptif, ou à l'inverse, d'envoyer l'héritier présomptif au sud et de rester lui-même à Pékin. Il n'était en effet pas concevable d'abandonner sans combat la capitale, à proximité de laquelle se trouvaient les tombes de tous les empereurs Ming, à l'exception du premier. Mais une fois Pékin effectivement tombé aux mains de Li Zicheng, et peu après le suicide de l'empereur et la disparition de l'héritier présomptif, les disparitions au sens où on ne savait pas ce qu'il était devenu, les dignitaires présents à Nankin, progressivement rejoints par d'autres qui étaient dispersés dans les provinces ou qui avaient fui le nord, prennent rapidement la décision, comme je l'ai mentionné, d'assurer la survie du régime en désignant comme régent, littéralement comme superviseur du royaume, le terme est Tianguo, un des nombreux princes Ming qui avaient été apanagés dans les provinces, ceci conformément à la règle instituée de la dynastie qui, depuis que le fondateur des Ming avait souhaité éloigner de la capitale les plus proches parents de l'empereur régnant, à l'exception de l'héritier présomptif, qui donc avaient été apanagés dans les provinces, mais qui entre-temps avaient fui leur domaine, pour la plupart, pour échapper aux armées rebelles. Mais quel prince choisir? Cela n'a pas été sans provoquer beaucoup de disputes et de rivalités. Pourtant, s'il était un moment où l'union nationale se serait imposée, c'était bien celui-ci. Or, les querelles entre factions concurrentes qui affaiblissaient le gouvernement des Ming depuis un bon demi-siècle ont repris de plus belle dès qu'il a fallu essayer de reconstituer un gouvernement au sud. Et il s'est malheureusement trouvé que le prince que ses partisans ont finalement réussi à imposer, qui était le prince de Fu, était un personnage exceptionnellement irresponsable et incompétent et en outre capricieux et obstiné comme l'avait été tellement de ses ancêtres de la lignée impériale des Ming. Et de toute façon, il était totalement manipulé par son entourage. Mais enfin, il est devenu régent avec l'écrasante responsabilité d'incarner la dynastie des Ming après la perte du Nord et de la protéger contre l'envahisseur Mandchou. Et mieux encore, les ministres qui l'avaient fait accéder à cette position périlleuse se sont arrangés pour qu'il monte très vite sur le trône comme successeur désigné du défunt empereur Chongzhen, alors qu'on était encore dans l'incertitude sur le sort de l'héritier présomptif. Un nouveau nom de règne, ou nom d'air, est choisi, en l'occurrence Rongguang, qui entrera en vigueur, suivant l'usage, au début de l'année, lunaire suivante, et qui sera donc la première année Rongguang, correspondant en gros à 1645. Et c'est donc sous ce nom d'empereur Rongguang que le personnage en question est resté dans l'histoire. Je disais que parmi les régimes des Ming du Sud qui se sont succédés donc jusqu'en 1662 et qui le plus souvent étaient obligés de déplacer leur capitale d'une ville à l'autre en fonction des événements, seul celui établi à Nankin à la fin de juin 1644 aurait eu à la rigueur les moyens de contenir l'avancement Chou. Et ceci pour différentes raisons. D'abord, il avait sous son contrôle les régions économiquement et culturellement les plus développées de l'Empire, à commencer par ses préfectures du Jiangnan, qui vont continuer m'occuper les semaines qui viennent. Mais il faut aussi y compter, outre le Jiangnan, la façade maritime sud-est, c'est-à-dire les provinces du Zhejiang et du Fujian, la façade maritime sud-est, donc, où se trouvaient les centres du commerce d'outre-mer, qui avaient énormément enrichi la Chine des Ming. Ensuite, autre raison, le régime de Rongguang, même s'il était affaibli par les rivalités entre factions, et même si l'empereur lui-même était un incapable, se trouvait à la tête d'un gouvernement plus ou moins en ordre de marche et d'une fonction publique nombreuse et expérimentée. Et surtout, les régions situées immédiatement au nord du Yangtze, qui constituaient en quelque sorte un glacis entre le sud et le nord, étaient protégées par un dispositif militaire a priori puissant, avec plusieurs armées aguerries commandées par des généraux particulièrement redoutables, qu'il faudrait plutôt d'ailleurs considérer comme des seigneurs de la guerre, et dont un bon nombre étaient en fait d'anciens rebelles ralliés, des généraux donc dont la loyauté envers les Ming à ce moment-là n'était a priori pas en question, et dont la présence était de nature à convaincre les potentats locaux dans toutes ces régions à rester fidèles à Nankin, donc à ne pas se livrer aux Mandchous. Il aurait donc dû être possible de tenir solidement la moitié sud de l'Empire, comme l'avaient fait les Song quelques siècles plus tôt, en mettant en œuvre une combinaison appropriée de guerre et de diplomatie. D'ailleurs, le programme du nouveau gouvernement de Nankin, c'était bien de proposer une alliance aux Qing pour combattre les rebelles qui couraient toujours, aussi bien Li Zicheng au Shanxi que Zhang Xianzhong au Sichuan, qui couraient toujours à ce moment-là. Autrement dit, l'idée était d'accepter de partager l'Empire avec les Mandchous, en les considérant comme un régime étranger, mais allié, en quelque sorte, et en attendant des jours meilleurs, c'est-à-dire en se donnant le temps de mobiliser les moyens nécessaires pour bouter les Mandchous hors de Chine du Nord le jour venu. Exactement ce qu'ambitionnaient de faire les Song du Sud face aux ancêtres des Mandchous, les Jurchen, les Tin, cinq siècles plus tôt. Or, non seulement le régime de Rongguang n'a rien réalisé de ce programme, mais il a tenu moins d'une année, alors que les Song du Sud ont tenu un siècle et demi, même si la reconquête du Nord est toujours restée hors de leur portée. Outre divers conflits politiques dont je ne peux pas parler ici, la cause première de ce rapide effondrement, très probablement, a été l'incapacité du régime à maintenir la discipline parmi les généraux dont dépendait sa survie et à les faire coopérer efficacement. Et cette incapacité avait sa source dans le factionnalisme et dans l'irresponsabilité qui régnait à la cour de Rongguang. Les décisions stratégiques et logistiques étaient prises en fonction des préférences ou des intérêts personnels des politiciens qui se disputaient la faveur de l'empereur et qui jouaient des rivalités entre les généraux eux-mêmes. Et ces décisions étaient souvent contradictoires, voire suicidaires, si bien qu'il s'est avéré en fin de compte impossible d'imposer un commandement unifié et coordonné sur le front nord. Et bien pire encore, si bien que plusieurs généraux, et pas des moins importants, ont préféré passer à l'ennemi avec armes et bagages. Un autre encore de ces généraux, et l'un des plus redoutés, s'est mutiné et a entrepris de marcher sur Nankin, ce qui a obligé à dégarnir dangereusement le front pour protéger la capitale des Ming du Sud. De leur côté, les dignitaires mandchous qui exerçaient le pouvoir au nom du jeune empereur Shunzhe à Pékin, et dont il faut bien dire qu'ils étaient d'une intelligence militaire et politique hors pair, n'avaient aucune intention d'abandonner la moitié la plus riche de l'Empire aux Ming du Sud. Il n'est donc pas surprenant, soit dit en passant, que la mission de bons offices envoyée à Pékin par le gouvernement de Hongguang pour leur proposer une sorte d'alliance honorable ait lamentablement échoué, comme on peut en particulier s'en faire une idée à travers le témoignage extrêmement vivant que nous a laissé l'un des ambassadeurs. Et aussitôt que les dirigeants mandchous ont estimé que leur domination des régions les plus stratégiques au nord était à peu près assurée, ils se sont engouffrés dans la brèche. La brèche, en l'occurrence, c'était l'extrémité orientale de la ligne de front entre les Qing et les Ming du Sud, qui s'était retrouvée dangereusement dégarnie à la suite d'un de ces conflits entre chefs de guerre supposés contenir les mandchous, dont j'ai parlé à l'instant. Au moment d'attaquer, les mandchous avaient en outre reçu le renfort de plusieurs de ces généraux qui avaient donc fait défection pour des raisons diverses et dont les troupes avaient grossi la force de frappe mandchoue dans des proportions considérables. Pour l'essentiel, en fait, ce sont ces armées chinoises, passées à l'ennemi et leurs chefs, qui ont conquis la Chine du Sud pour le compte des Qing. Le point d'entrée des mandchous au Jiangnan a été la grande métropole commerciale de Yangzhou, cité Yangzhou... situé au Yangzhou, voilà. Donc la ville elle-même est située à peu près ici. Yangzhou, donc, situé au nord du Yangtze, en amont de l'estuaire et près du confluent avec le Grand Canal, donc une situation particulièrement stratégique. Toutes les forces Ming disponibles dans la région, c'est-à-dire celles qui ne s'étaient pas encore rendues au Qing, s'étaient massées à l'intérieur des murs sous le commandement d'un des plus éminents hauts fonctionnaires et généraux des Ming du Sud, Che Kefa. Che Kefa avait toujours été partisan d'une stratégie offensive face aux Qing, mais il avait échoué non seulement à la faire accepter par la cour, mais encore, il avait échoué à coordonner la défense statique du front nord qui avait la faveur donc, de l'empereur et du gouvernement. Et au moment où les Mandchous arrivaient sur Yangzhou, Che Kefa se savait pris au piège. Le siège et la prise de la ville de Yangzhou le 20 mai 1645, la mort héroïque de Che Kefa, qui a hautement refusé les offres de service des Qing, et l'épouvantable massacre des habitants de Yangzhou qui a suivi, qui a duré plusieurs jours, font partie de la légende. En tout cas, la prise de Yangzhou et l'anéantissement des dernières forces des Ming du Sud, encore en mesure de résister à l'avance des Mandchous, ont permis aux armées des Qing, qui à présent étaient en majorité composées de forces chinoises ralliées, comme je l'ai noté, ont permis aux armées des Qing de franchir le Yangtze, et de là, il ne leur a pas fallu 3 semaines pour arriver devant Nankin. Nankin, d'où l'empereur Hongguang avait entre-temps pris la fuite, en cachette, pour aller se réfugier dans le camp d'un des derniers généraux qui lui était resté fidèle. Mais les lieutenants du général en question avaient livré Hongguang aux Mandchous. Et il sera ramené à Nankin dans des conditions humiliantes, puis expédié à Pékin, où il est discrètement exécuté un peu plus tard, en 1646, je crois. Une partie des ministres du gouvernement de Hongguang s'était également échappée, et ceux qui sont restés n'ont pas eu d'autre choix que de s'organiser pour remettre la capitale des Ming du Sud aux Mandchous, qui sont donc en train de s'approcher. Les hauts fonctionnaires Ming qui vont accueillir le prince Mandchou, chef du corps expéditionnaire et qui lui ouvre les portes de la ville, sont nommés par celui-ci à des postes dans l'administration des Qing. Le même prince multiplie les déclarations rassurantes, manifeste son respect pour les anciens empereurs Ming, promet le retour à l'ordre et au bon gouvernement, et les habitants sont dûment invités à accueillir les forces sino-mandchoues en manifestant tous les signes de la soumission. Un transfert de légitimité dynastique pacifique et digne, en quelque sorte, exactement comme ce qui s'était passé lorsque les Mandchous étaient entrés dans Pékin presque exactement un an plus tôt. Et comme à Pékin, côté moins agréable de l'affaire, comme à Pékin, la moitié de la ville est réservée, la moitié de Nankin est réservée aux nouveaux maîtres de l'Empire, et ses habitants sont priés d'aller déménager ailleurs pour leur faire de la place. Il serait beaucoup trop long de retracer, même de façon sommaire, la conquête du Jiangnan et du reste de la Chine du Sud par les Mandchous et leurs alliés chinois. Et de toute façon, j'aurai l'occasion de revenir sur plusieurs épisodes importants. J'entends importants dans la perspective qui m'intéresse, c'est-à-dire la façon dont ces épisodes ont été vécus par les populations locales et surtout les réactions très contrastées de ces dernières, d'une ville à l'autre ou de façon très typique entre villes et campagnes. De ce point de vue, on peut le noter d'emblée, le massacre de Yangzhou a eu un impact considérable. Je veux dire que les Qing ont joué à fond de l'effet de terreur produit par cet épisode en promettant le même sort aux villes qui leur résisteraient, tandis que dans le cas contraire, les populations seraient protégées et que les anciens fonctionnaires Ming seraient amnistiés et promus. L'avance mandchou en a été sans aucun doute très facilitée. Mais certaines villes ont malgré tout résisté ou se sont révoltées contre les nouveaux occupants dans des circonstances sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir après s'être soumises dans un premier temps. Il y a donc eu d'autres massacres en 1645 comparables à celui de Yangzhou et qui ont eu eux aussi un grand retentissement et dont la mémoire s'est prolongée pendant très longtemps. Quoi qu'il en soit, à la fin de 1645, les Qing s'étaient emparés de pratiquement toutes les préfectures du Jiangsu, puis du Zhejiang, en 1646. Mais ils n'étaient pas pour autant au bout de leur peine, loin de là. Et la mainmise des Qing sur la moitié sud de la Chine a été un processus laborieux, avec des retours en arrière et avec plusieurs chaudes alertes. Si les capitales administratives du Jiangnan, c'est-à-dire les préfectures et les sous-préfectures, donc tout ce qui est représenté sur cette carte, surtout la partie est, se sont rapidement soumises de gré et, dans un certain nombre de cas, de force, l'hostilité au nouveau régime restait extrêmement vive et est restée longtemps. Et il y a eu, jusqu'à la fin des années 1640 au moins, beaucoup de mouvements de résistance dans les campagnes, des mouvements plus ou moins organisés, plus ou moins efficaces. Il y a eu aussi beaucoup de piraterie le long des côtes et des rivières. Et le résultat de tout cela, c'est que pendant de longues années encore, le nouveau régime s'est senti très menacé dans ces nouveaux territoires au sud du Yangtze. Et il se sentait d'autant plus menacé qu'en dépit de l'effondrement rapide du régime de Hongguang à Nankin, la résistance loyaliste continuait, avec des hauts et des bas, de s'organiser aux périphéries de l'Empire. L'histoire de cette résistance loyaliste, donc post-Hongguang si vous voulez, est excessivement compliquée. Les personnages autour de qui et ou alors au nom de qui elle s'organisait sont donc ces princes Ming auxquels j'ai déjà fait allusion. Trois d'entre eux ont été portés sur le trône par leurs partisans et ont adopté donc un nom de règne. Et les deux plus importants parmi ces trois sont d'une part le prince de Tang, qui est devenu l'empereur Longwu, qui a contrôlé une partie du littoral du Zhejiang et du Fujian pendant une assez brève période. Il est tombé aux mains des Qing dès octobre 1646. Et d'autre part, donc, le prince de Gui, dont j'ai déjà parlé, également connu comme empereur Yongli, qui est donc mort en Birmanie en 1662, mais dont le régime, avant cela, avait réussi à garder le contrôle de territoires tout à fait importants au Guangdong, donc la côte sud, puis dans le sud-ouest. Mais plusieurs autres princes ont tenté d'établir des bases de résistance en s'arrogeant, pour certains d'entre eux, le titre de régent. Ces prétendants au trône des Ming, les territoires qu'ils arrivaient à contrôler tant bien que mal, les fonctionnaires et les officiers qui constituaient leur cour et les armées qu'ils essayaient de maintenir sur pied, tout cela montrait que les Ming existaient toujours, entretenaient en quelque sorte l'espoir et légitimaient les insurrections anti-Mandchous qui continuaient d'éclater çà et là dans les provinces de l'intérieur, d'ailleurs aussi bien au nord qu'au sud. Jusqu'à la déroute du régime de Yongli en 1662, en fait, les Qing ont dû faire face à une résistance loyaliste opiniâtre sur deux fronts opposés. D'une part, dans le sud-ouest, comme on vient de le voir, et d'autre part, sur le littoral sud-est, au Zhejiang et surtout au Fujian, comme on peut le voir sur cette carte. J'avais eu l'occasion, dans mon cours, en fait, d'il y a deux ans, de parler de Zheng Chenggong, également connu des Européens sous le nom de Koxinga, qui était issu d'une famille de notables du Fujian, dont la fortune reposait sur le commerce d'outre-mer, et qui, après la mort du prince de Tang en 1646, avait repris le flambeau de la résistance loyaliste. depuis ses bases du Fujian, puis de Taïwan à partir de 1662, encore que dans une moindre mesure, Zheng Chengrong, puis son fils, n'ont cessé de menacer les provinces côtières jusqu'à la prise de Taïwan par les Qing en 1683. Et à cet égard, le point culminant de la carrière de Zheng Chengrong, auquel j'avais aussi fait allusion il y a deux ans, ça a été l'expédition navale à grande échelle qu'il a lancée en 1659 le long du Yangtze et qu'il a menée jusque devant Nankin, dont il a bien failli s'emparer. Cet épisode, même s'il n'a pas eu le lendemain, avait brièvement semé la panique parmi les autorités civiles et militaires de la région, avec des conséquences dont j'avais parlé donc il y a deux ans. Et cette carte donc montre l'étendue maximale, disons, de l'influence du régime de Zheng Chengrong, avec en rouge vif les régions qu'il occupait et qu'il administrait, effectivement, aussi bien à Taïwan que sur la côte, et dans une couleur plus claire, les régions, dit la légende, où s'exerçait son influence, quoi que cela signifie. Mais en tout cas, on voit bien l'avancée qu'il a pu réussir jusqu'à Nankin, donc 15 ans après la conquête du Sud par les Qing. La résistance pro-Ming cesse malgré tout d'être un réel danger après 1662, c'est-à-dire après la capture de l'empereur Yongli et le repli de Zheng Chengrong sur Taïwan. Mais les Qing n'en ont pas fini en Chine du Sud. Le dernier épisode avant qu'ils puissent considérer que leur pouvoir sur cette partie de l'Empire est définitivement établi. Le dernier épisode, et pas le moindre, c'est la rébellion dite des Trois Feux de la Terre, ou San Fan, le mot Fan désignant, depuis l'époque des Tang, les gouverneurs militaires qui tiennent les régions frontières et qui, typiquement, sont des gens très indépendants. Qui étaient ces Feux de la Terre, comme on les appelle dans la sinologie occidentale? C'étaient des généraux chinois originaires du Nord-Est, qui avait compté parmi les principaux acteurs de la conquête mandchoue et qui s'était retrouvé chargé d'honneur et placé à la tête de véritables satrapies dans le sud-ouest, au Guangdong et au Fujian, où il jouissait d'une quasi-indépendance. Et lorsque le tout jeune empereur Kangxi avait décidé de reprendre le contrôle en 1673, ils avaient rompu avec les Qing et étaient entrés en rébellion. Le plus puissant des trois n'était autre que Wu Sangui, que nous avons déjà rencontré plusieurs fois, lequel Wu Sangui avait été maintenu au Yunnan avec plein pouvoir civil et militaire après en avoir chassé le dernier des Ming, le dernier prétendant des Ming en 1659, donc comme nous l'avons vu. Et là, il s'était retrouvé à la tête d'une sorte de royaume autonome, nommant ses propres fonctionnaires, levant ses impôts, mais coûtant une véritable fortune à la dynastie des Qing pour l'entretien de ses armées. Après sa rupture définitive avec les Qing, il se désigne empereur d'une dynastie Zhou, restaure les coutumes et les institutions des Ming, et dans les années qui suivent, il réussit à prendre le contrôle de territoires tout à fait considérables dans le centre, au Jiangxi et au Hunan, dans le sud-ouest et au Sichuan, et jusque dans le nord-ouest, où il, pendant une courte période, son influence s'exerce sur le Gansu. Wu Sangui s'est en fait trouvé à un moment en position de remonter vers le nord et de reprendre l'empire au Mandchou. Et il est inutile de dire que si, au lieu d'hésiter à se lancer dans l'aventure et finalement à ne rien faire, si, au lieu d'avoir cette attitude, il y était allé, la Chine aurait peut-être connu une histoire extrêmement différente. Mais ce sont au bout du compte les Qing qui ont eu raison de lui, ou plutôt de son petit-fils qui lui avait succédé après sa mort en 1678, en 1681, après 7 ans d'une guerre pleine de retournements et d'une guerre absolument ruineuse. Quant aux deux autres feux de la terre qui étaient entrés en rébellion au même moment, ils avaient rendu les armes dès 1677. Après ces événements, et après la prise de Taïwan, donc juste après, en 1683, on peut bien dire que le pouvoir des Qing est définitivement assis en Chine. Et il n'y sera plus jamais sérieusement menacé, ni contesté, en tout cas pas ouvertement, avant la rébellion des Taiping, donc au milieu du XIXe siècle. En d'autres termes, on peut considérer que la transition Ming-Qing est achevée. Et d'ailleurs, j'ai prévu de consacrer la dernière heure de ce cours à la visite de l'empereur Kangxi au Jiangnan, plus exactement à Suzhou, en 1684, qui en constitue d'une certaine manière le point d'orgue. Et j'arrête donc ici ce rappel historique dont je crois qu'il était indispensable pour donner un cadre événementiel aux analyses que je vais vous proposer à partir de la semaine prochaine. Et pour conclure aujourd'hui, il me faut donc dire un mot de ce que je m'apprête à faire. Et surtout, il me faut préciser ce que mon approche peut, je crois, ajouter à la compréhension de cette transition Ming-Qing dont je viens de vous proposer un résumé vraiment très rudimentaire et qui a déjà fait l'objet d'innombrables travaux et depuis longtemps. Mon sujet, disais-je, ce sont les réactions populaires à la conquête mandchoue. Est-ce nouveau ? C'est nouveau en partie seulement, mais j'ai pu me convaincre que les sources que j'utilise, et peut-être plus encore la façon dont je les utilise, permettent en effet de porter sur ces événements un regard réellement original. Comme je le disais, la transition Ming-Qing a été très étudiée. Elle l'a d'abord été sous l'angle de ce qu'on peut appeler la grande histoire. Les princes, les hauts fonctionnaires, les généraux, les batailles, les villes mises à sac, les intrigues diplomatiques et politiques, les héros et les traîtres, et ainsi de suite. Et aussi les grandes questions, comme par exemple les raisons morales, politiques, économiques, etc., de l'effondrement des Ming, les problèmes particuliers soulevés par un nouveau régime non chinois, les questions de légitimité et de loyauté qui déchiraient les lettrés, en tout cas certains d'entre eux, la place respective de l'idéologie et du réalisme, et beaucoup d'autres choses encore. Bref, tout ce dont parlent les sources habituelles de la sinologie qui étaient produites par la bureaucratie et par l'élite mandarinale. Mais il n'y a pas que ces sources. Et la transition Ming-Qing est en fait un cas très spécial, car au milieu du chaos, de l'anarchie et des incertitudes qui caractérisaient cette période, ont été produits une quantité considérable de textes très éloignés des conventions de l'historiographie officielle et du discours lettré traditionnel, disons du discours lettré dans ses formes les plus distinguées. Des textes qui se présentent comme des témoignages, des chroniques privées, des journaux, des collections de notes et d'autres formats encore. Si bien qu'il n'existe peut-être aucune autre période dans l'histoire de la Chine pré-moderne sur laquelle on dispose de sources aussi variées et souvent, et c'est ça le plus important, d'un ton aussi libre. Ces écrits non officiels, dont la plupart étaient restés à l'état de manuscrits, qui ont commencé à circuler dans le public dans le courant du XIXe siècle, et dont la publication est un processus qui se poursuit aujourd'hui encore, les historiens de la transition Ming-Qing les ont bien sûr utilisés. Mais la plupart l'ont fait dans la perspective de ce que j'ai appelé la grande histoire, la saga du changement de dynastie, si vous voulez, et les différents épisodes qui la composent. Et bien souvent en Chine, on a mobilisé ces écrits pour y trouver des exemples ou des arguments à l'appui d'interprétations politiques ou idéologiques des événements en question, que ces interprétations soient nationalistes ou qu'elles soient marxistes, ou les deux à la fois. Mais il y a aussi le cas de ce qui reste, à mon avis, la synthèse à la fois la plus imposante, la plus exhaustive et la plus passionnante sur le changement de dynastie, et je veux parler bien sûr du grand ouvrage de l'historien américain Frederick Wakeman, trop tôt disparu, il y a 4 ans, ouvrage paru en 2 forts volumes en 1985, sous le titre « The Great Enterprise », la grande entreprise, ou en chinois « Hongye », ce qui désigne bien sûr traditionnellement, le terme désigne traditionnellement l'entreprise dynastique de conquête et de préservation de l'Empire. Le livre de Wakeman est à la fois une saga, une fresque et un monument d'érudition. Et il se sert énormément de cette littérature non officielle dont je suis en train de parler. Et dans une certaine mesure, mais de façon très épisodique, car son projet est beaucoup plus vaste et c'est d'abord d'une histoire événementielle qu'il s'agit, dans une certaine mesure, donc, il intègre la dimension qui m'intéresse, c'est-à-dire, si vous voulez, la transition Ming-Qing vue depuis la base. Ce que j'entends par là, je crois l'avoir déjà bien illustré ces 2 dernières années, même si mon propos a aussi porté sur d'autres sujets que la transition dynastique stricto sensu et sur d'autres personnages que ses protagonistes, grands et petits. Comme je l'ai rappelé au début, le type d'écrit sur lequel je me suis concentré et continuerai de me concentrer, c'est ce que j'appelle les écrits à la première personne. Et dans ces écrits à la première personne, j'inclus non seulement les autobiographies et les journaux, qui servent souvent de source directe aux autobiographies, mais aussi un certain nombre de chroniques locales qui se présentent comme des témoignages de choses vues et entendues, comme on disait, des témoignages, et c'est cela le point important, dans lesquels l'auteur est présent à la fois comme témoin et comme participant. Des témoignages, en d'autres termes, avec une forte connotation autobiographique. J'avais aussi longuement insisté sur le fait que si l'autobiographie est un vieux genre en Chine, qui remonte au moins au début de la période impériale, la fin des Ming, en revanche, depuis la fin du XVIe siècle surtout, et le tout début des Qing, constitue une période tout à fait exceptionnelle dans l'histoire de l'écriture à la première personne. Pour toute une série de raisons sur lesquelles il serait trop long de revenir, un certain nombre de conventions et d'inhibitions ont alors sauté, si bien que l'on dispose d'un ensemble assez considérable d'écrits dont les auteurs s'expriment avec une extrême liberté et bien souvent avec une absence complète de pause sur eux-mêmes, sur leur environnement familial et social et sur les événements dont ils sont témoins. J'ai cité, et parfois assez longuement, plusieurs de ces écrits. Je reviendrai dans les semaines qui viennent sur certains d'entre eux et j'en introduirai plusieurs autres. Et en tout cas, c'est ce sur quoi je voulais insister, c'est que c'est à travers ce genre de littérature qu'on peut voir la transition Ming-Qing, comme je le disais, depuis la base. Que nous en avons vu déjà certains aspects, en fait, comme par exemple les catastrophes naturelles de l'extrême fin des Ming dans la région du Jiangnan et cette ambiance de fin du monde qu'évoquent certains auteurs dont j'ai parlé l'année dernière et que j'ai rappelé brièvement tout à l'heure. Ou encore, ça j'en avais parlé l'année d'avant, comme la façon dont ont été vécues les deux ou trois premières décennies des Qing par les populations de cette même région, alors qu'elles se trouvaient livrées aux caprices, aux exigences et aux brutalités des militaires. Conséquence directe de cet état constant d'alerte et d'insécurité en Chine du Sud, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Je vais donc m'intéresser aux réactions populaires à la conquête mandchoue, ai-je dit, et ce qui au début ne pouvait être vécu, et à ce qui au début ne pouvait être vécu que comme une occupation. Et je vais en particulier m'y intéresser à travers la problématique de la résistance et de la collaboration. Mais le mot populaire, pour sa part, n'est peut-être pas le meilleur dans le cas présent. Certaines des sources que je vais citer, ou que j'ai déjà citées, donnent effectivement à voir de façon extrêmement immédiate, les réactions du petit peuple, des gens ordinaires, dans les villes ou dans les campagnes. Mais dans beaucoup d'autres cas, c'est des lettrés qu'elle parle, notamment de ces étudiants confucéens qui formaient une sorte de masse intermédiaire entre l'élite bureaucratique et les gens ordinaires. Et qu'il soit beaucoup question de ces étudiants ou des problèmes des lettrés, ça n'a après tout rien d'inattendu, puisque à une notable exception près, dont j'ai déjà souvent parlé, ces écrits à la première personne étaient tous rédigés par des lettrés. Mais ces derniers m'intéressent dans leur comportement ordinaire, justement. La thématique de la résistance et de la collaboration a été discutée à perte de vue par les lettrés de la transition Ming-Qing. Je ne dis pas dans l'abstrait, car il y avait des choix très concrets à faire, et même des choix tout à fait déchirants, mais en se référant à des valeurs morales ou politiques ou à des précédents historiques qui donnaient, si vous voulez, à ces discussions une sorte de hauteur théorique. En revanche, dans les textes dont je parle, on ne débat pas de morale ou de philosophie, on agit sous la pression des événements ou de l'instinct de survie ou sous le coup de l'émotion ou simplement sans trop se poser de questions ou alors en se donnant des raisons bonnes ou mauvaises. Et c'est d'ailleurs de cela que je parlerai pour commencer la semaine prochaine à partir de deux témoignages en particulier qui se réfèrent non pas à la transition dynastique dans la région du Jiangnan, qui m'occupera beaucoup plus par la suite, mais qui se réfèrent à la mini-transition et même double transition qui a pris place à Pékin au printemps 1644 lorsque la ville a été prise d'abord par les Zhecheng et ensuite par les Mandchous. Et c'est là qu'on verra à quel point il y a place entre les héros loyalistes célébrés dans l'historiographie et les traîtres condamnés dans la même historiographie, dont a surtout parlé l'histoire, il y a place pour tout un marais, je dirais, de gens désorientés et ballottés par les circonstances, dont certains ont raconté leurs tribulations et leurs doutes avec beaucoup de candeur. Et c'est donc de cela que je parlerai tout de suite la semaine prochaine. Je vous remercie.